Demain, l'espace public, ce sont des rencontres mensuelles proposées à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, l'ASAT, zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Architectes, urbanistes, philosophes, anthropologues viennent parler de ce qui se fait déjà et de ce qu'on peut imaginer pour rendre nos villes plus vivables, mais aussi plus vivantes et vibrantes. La deuxième rencontre, demain des artistes associés à la Fabrique urbaine, a eu lieu le jeudi 13 octobre 2022 avec Pascal Lebrun-Cordier, directeur artistique des ZAT et du programme d'urbanisme culturel Transat, et Alsti King, artiste à Montpellier. Pascal Lebrun-Cordier est une figure de l'urbanisme culturel en France. Professeur associé à l'École des Arts de la Sorbonne, il est le fondateur des zones artistiques temporaires à Montpellier.
De plus en plus d'artistes créent non seulement dans la ville, mais de la ville. Alors ça veut dire qu'ils vont répondre à des questions urbaines, qu'ils vont intervenir pour transformer la ville, pour s'intégrer dans des processus de rénovation urbaine, pour modifier les aménagements d'espaces publics. Ils vont littéralement, faire la ville, transformer la ville, faire de la ville, c'est-à-dire de l'urbanité dans les deux sens du mot. L'urbanité, ça veut dire la ville en dur, ça renvoie à l'aménagement physique, spatial. Mais l'urbanité, c'est aussi la ville relationnelle, la ville des échanges, la ville sociale. L'urbanité, c'est une dimension spatiale et une dimension sociale. Et ces artistes, justement, ils vont naviguer entre ces deux dimensions et ils vont faire œuvre, mais ils vont aussi faire ville en aménageant, encore une fois, des espaces, en proposant des manières d'être ensemble, en configurant des fragments de ville. Et ça, c'est passionnant et c'est assez nouveau parce que, historiquement, l'artiste est plutôt celui qui posait un objet dans la ville ou qu'on invitait à poser un objet dans la ville. Bon, c'est ce qu'on pourrait résumer d'une formule en disant que c'était la cerise sur le gâteau. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on a beaucoup de cerises sur le gâteau et c'est parfois, d'ailleurs, intéressant, bien sûr. Mais ce que je trouve, moi, encore plus intéressant, c'est quand on essaye de mettre la cerise dans le gâteau. La cerise artistique dans le gâteau urbain, ça veut dire quand on rentre dans le processus de la fabrique urbaine, dans la recette, quand on se pose des questions, pas uniquement formelles et plastiques, mais des questions politiques, sur quelle ville veut-on, quel espace d'hospitalité, quel espace de rencontre, de relation, d'échange, quelle singularité veut-on produire. Ça, ce sont des questions qui renvoient vraiment à des enjeux urbains, des enjeux politiques aussi. Et donc ces artistes qui vont essayer de mettre la cerise dans le gâteau, ils vont être contributeurs véritablement de cette fabrique urbaine et pas uniquement là pour poser leurs objets artistiques dans la ville déjà faite. Ce mouvement de l'urbanisme culturel, puisque c'est le nom qu'on lui a donné, existe depuis une quinzaine d'années. Ce dialogue des artistes et des acteurs culturels avec les aménageurs, les paysagistes, les urbanistes, sur ce mode-là, encore une fois, d'une réflexion profonde sur quelle forme de ville on veut, et encore une fois, pas uniquement quand le projet urbain est dessiné et terminé, mais également très en amont, dans les phases d'études, dans les phases de concertation. Ce mouvement, donc, de l'urbanisme culturel, oui, date en France une quinzaine d'années. Il y a une académie de l'urbanisme culturel qui réunit une cinquantaine de professionnels régulièrement qui viennent soit du monde de l'art en espace public, soit du monde de la culture, soit du monde de l'éducation populaire, soit du monde de l'urbanisme, de l'architecture et encore d'autres univers. Donc oui, il y a un réseau de professionnels qui échangent, qui discutent des manières de faire, des difficultés, des questions éthiques aussi qui se posent quand on intervient dans ce contexte-là, de cette manière-là dans la fabrique urbaine. Voilà, donc en France, je dirais que c'est depuis une dizaine d'années. Beaucoup d'étudiants aussi s'intéressent à ces sujets. Beaucoup d'étudiants en archi et en urba qui considèrent que les manières de faire la ville transmises dans les écoles d'archi sont intéressante mais insuffisante, et qu'il faut cette part de singularité, de poésie, cette part de liberté aussi qu'amène la création artistique. Et puis on a aussi dans le champ de l'art et dans le champ du projet culturel, de l'ingénierie de projet culturel, beaucoup d'étudiants qui s'intéressent à cette zone intermédiaire, encore une fois, cette zone intermondiale, comme dit Fabienne Kemener, qui est une des figures de ce champ de l'urbanisme culturel, entre différents mondes donc. Voilà, ce champ se développe et rencontre un certain succès chez donc des étudiants, chez les professionnels du champ de l'urbanisme ou de la culture ou de la création artistique, de la part des élus également, et puis des habitants tout simplement, qui voient comment des projets émergent, qui leur donnent aussi une place, parce qu'il n'y a pas que les artistes et les acteurs culturels dans l'urbanisme culturel, il y a d'abord les habitants, celles et ceux qui sont en ville, qui habitent là et qui ont leur mot à dire, que ce soit des enfants, des personnes à mobilité réduite, des migrants, des gens qui habitent là, qui sont là et qui se trouvent impliqués dans beaucoup de ces projets d'urbanisme culturel. Donc on est dans des démarches innovantes, stimulantes, qui viennent revigorer la démocratie, mais aussi la pensée et la pratique de l'urbanisme. Je crois que le développement de ces manières de transformer la ville avec des artistes et des acteurs culturels, elles connaissent un certain succès parce qu'il y a un appétit de participation un peu partout dans la société. Nous sommes contributeurs par les réseaux sociaux, le numérique. Nous voulons prendre part, apporter notre part, c'est-à-dire participer au sens fort du terme dans de nombreux contextes. Voilà, il y a un appétit de participation, de contribution, qui est grand, qui est fort et qui vient naturellement stimuler ces approches de l'urbanisme culturel. Nous voulons une société plus contributive, une démocratie plus contributive, et dans laquelle, encore une fois, on donne une vraie place à la poésie, la création artistique, la singularité apportée par les artistes. À Montpellier, il y a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à ces approches, qui les pratiquent déjà, bien sûr, hein, depuis longtemps. Il y a un alignement des planètes aussi, parce qu'on a un maire qui porte une vision de l'espace public très, très, très forte, un intérêt pour la création artistique et pour la culture qui est notable, qui est tangible, je dirais. Et donc on a forcément tout un écosystème qui est en train de se mettre en place avec l'école d'archi, avec le MOCO, l'école des beaux-arts, avec la fenêtre, avec le travail qui est fait à Tropisme, la ZAD qui revient et qui lance donc ce nouveau programme d'urbanisme culturel Transat, et encore beaucoup d'autres, hein, que je n'ai pas cité là, des artistes bien sûr. Donc on a, je crois, un écosystème qui est déjà à l'œuvre depuis un certain temps bien sûr, et qui pourrait encore plus dans les prochaines années, je pense, inventer, donner encore plus d'ampleur à ces manières d'inventer la ville. Toutes ces démarches se développent à la fois dans le champ institutionnel, dans le cadre des politiques public, donc la politique culturelle, la politique de l'urbanisme, dans le champ d'action d'opérateurs comme la SERM, voilà, des aménageurs, mais aussi en dehors, c'est-à-dire que la société civile, voilà, l'initiative privée, l'intervention pirate, tout ça existe aussi. Donc je pense qu'il est très important, justement pour la vitalité d'un tel écosystème, que tout le monde puisse s'engager. Et d'ailleurs à Nantes c'est le cas aussi, tout ne vient pas de la puissance publique. Dans ces approches, c'est justement l'intérêt de parler d'écosystème. Un écosystème, c'est plusieurs types d'acteurs, c'est un milieu qui, à un moment donné, devient favorable au développement d'initiatives, d'où qu'elles viennent. Tout ne vient pas de la puissance publique. Et il est très important qu'il y ait aussi un champ divers, constitué d'opérateurs multiples qui ont des visions, des approches, des sensibilités, des démarches, des méthodes différentes. Les artistes ne sont pas uniquement des créateurs de formes, mais ce sont bien sûr des gens qui défendent des valeurs et des visions. Beaucoup d'entre eux sont engagés pour développer les communs, des espaces de tiers-lieux qui vont être un peu plus que des lieux où on vend de la bière, mais des lieux où on pense, où on expérimente, où on tente des manières de faire ensemble, hein, qui soient un peu alternatifs. Et donc, il y a dans ces ces démarches, des visions et des valeurs qui sont déployées, et une critique aussi du développement urbain, dans certains cas, de l'extension infinie de la ville, de la métropolisation infinie, qui est un problème, parce qu'on le sait, il va falloir modifier nos manières de faire, nos manières d'habiter, nos manières de vivre, et effectivement, des penseurs comme Guillaume Faburel, l'auteur des Métropoles barbares, nous invite à penser la démétropolisation. Dans ces démarches, il y a aussi, oui, des militants, des artistes militants, des artivistes qui vont expérimenter d'autres manières d'habiter, d'autres manières de partager l'espace public, d'autres manières de faire société. L'essor de l'urbanisme culturel nous amène à être très vigilants sur les raisons pour lesquelles ces projets sont parfois menés. Certains opérateurs, certaines politiques publiques ne visent simplement qu'à accroître l'attractivité et ne s'intéressent pas beaucoup à l'attachement, au vivre ensemble, aux manières de produire de l'hospitalité, de la solidarité, de l'inclusivité. Donc il y a à être vigilant sur les raisons pour lesquelles ces projets sont portés, à être vigilant sur les cadres qui sont dessinés par la commande publique. Il faut que les artistes puissent conserver leur autonomie, leur liberté, tout en rentrant encore une fois dans un dialogue qui les amène nécessairement aussi à ne pas être totalement autonomes. Mais le sont-ils jamais autonomes ? Simplement, il faut être conscient des enjeux, accepter d'une certaine manière d'être instrumentalisé, parce qu'on l'est toujours, mais comprendre pourquoi on l'est et quels sont les intérêts des uns et des autres. Donc ne pas être dupe et simplement être un acteur conscient d'un système auquel on peut contribuer pour transformer, c'est ma conviction, des parcelles de ville, des bouts du monde. Je crois que c'est possible. Ce qu'on tente de faire avec la ZAT, la zone artistique temporaire, c'est d'inventer, oui, une ville éphémère, une ville qui dure un jour, deux jours, trois jours, une nuit parfois dans certaines éditions passées, qui est une sorte d'utopie, oui, d'utopie urbaine, d'utopie poétique, d'utopie sociale, où on s'installe dans la ville autrement, où on entre en relation autrement avec les autres, où les corps, les manières d'être sont différentes. C'est une forme de suspension, on va dire, de la ville ordinaire et d'ouverture d'une brèche. C'est une tentative, c'est la ZAT, oui, la volonté de montrer qu'il y a du possible disponible.
C'était Pascal Lebrun-Cordier, directeur artistique des ZAT et du programme d'urbanisme culturel Transat dans le cadre de Demain l'espace public, cycle de rencontres proposé à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, la ZAT, zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Nous vous suggérons d'écouter l'entretien réalisé avec Al Sticking, artiste à Montpellier, qui était également invité lors de cette rencontre. Vous pouvez aussi écouter l'enregistrement intégral de cette conférence-discussion. Ce programme est financé dans le cadre de Montpellier Capitale Européenne de la Culture.